Les ordinateurs de ce rendez-vous m'ont demandé de remplacer un conférencier au pied levé et j'ai accepté avec plaisir de venir vous présenter le DevOps. Enfin, au moins le DevOps tel que chez Morpho, nous l'avons compris et nous le déployons. C'est ce que je vous propose de vous présenter, c'est le DevOps vu par Morpho. Peut-être que d'autres personnes ont une autre définition, mais en tout cas vous aurez la nôtre. Voilà. Un mot sur ma société et moi-même. Ensuite, on verra l'histoire du mot DevOps. Pourquoi on est intéressé par cette démarche, nous, Morpho. Pourquoi on a besoin du cloud pour ça. Et ce qui change d'un point de vue organisationnel dans l'entreprise. Donc Morpho, rapidement, on est une société de 8400 personnes. On fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc on intervient, on vend beaucoup de... On est dans l'industrie, hein. Nous sommes du segment industriel, beaucoup de R&D. Sur des segments, par exemple les titres d'identité, on génère des permis de conduire, des cartes d'identité dans le monde entier. Pour les États, on fournit des registres d'état civil, donc c'est notre premier marché. On est aussi dans le marché de tout ce qui est criminal justice et par exemple on équipe le FBI. Le FBI, le système qui reconnaît les empreintes digitales du FBI, c'est français depuis plus de 15 ans et c'est nous qui le fournissons. C'est fait en région parisienne. Donc on fournit des systèmes de reconnaissance automatique d'empreintes digitales à l'échelle des pays. On fait tout ce qui est gestion des flux de passagers. Donc par exemple le système Paraf au Roissy-Charles de Gaulle, c'est nous. Il y a de la biométrie, il y a de la notion de flux. On fournit ce genre d'équipement. Et du contrôle d'accès pour les grands événements, toujours autour de la biométrie et du contrôle d'accès. Voilà. Bon. Et les cartes à puce en dernier. On fait beaucoup de choses. De toute façon, avec 8400 personnes, on fait un certain nombre de choses. Donc, côté personnel, moi je suis responsable, je suis un manager d'une équipe DevOps, une ligne de service DevOps, donc il y a le mot DevOps dans le titre, qui a été créé au début de l'année suite à une réorganisation de l'entreprise. On a décidé au niveau du management de l'entreprise d'introduire ce mot directement dans l'organigramme avec une équipe attachée. Donc aujourd'hui c'est 18 personnes qui sont affectées pour le déploiement du DevOps dans l'entreprise. Je suis également ce qu'on appelle un expert Safran. Ça veut dire chez nous que je suis là pour promouvoir ce qu'on fait en interne vers l'extérieur. C'est ce que je fais aujourd'hui à ce titre. Et aussi, par la même occasion, comprendre ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et le ramener dans l'entreprise. Voilà, c'est dans cette casquette-là aussi que je suis là aujourd'hui. Ok, parlons de DevOps. DevOps. Alors, c'est une nouvelle manière de gérer des projets IT, avant tout IT, avec la composante software bien évidemment. Ça a été activé par la présence de nouvelles technologies comme les IaaS, particulièrement les Amazon ou d'autres. C'est venu par les Google, les Facebook, un certain nombre de grands du web qui existent maintenant, qui ont, sans l'appeler DevOps, ils ont travaillé différemment et maintenant on appelle ça DevOps. Et c'est eux qui ont créé cette manière de faire, cette manière de travailler que vous verrez juste après. Donc en 2010, on voyait que l'occurrence du mot zéro. Et maintenant, on a une courbe qui est symptomatique de quelque chose qui se prend et qui se déploie. Enfin, au moins, les gens en parlent beaucoup, à défaut de savoir ce que c'est exactement. Mais donc c'est quelque chose de très récent. Donc DevOps, c'est un mot pour deux réalités, les développeurs. Donc là, on voit un open space avec des développeurs en train de coder selon le super software à la mode. Et on a les ops qui sont... en fait, ici, on fait le soft qui marche en nominal. Et puis ici, on gère les erreurs. Donc c'est une ambiguïté, enfin, c'est une contradiction entre les deux populations, avec les ops qui maudissent les devs parce qu'ils ne comprennent rien de ce que c'est que la vraie vie dans un data center quand il fait 16 degrés et qu'il faut rester jusqu'à 22h le soir, voire pire, pour corriger un problème le samedi ou le dimanche. Voilà. Et les développeurs qui arrivent lundi, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne comprends pas, ça marchait très bien chez moi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, le DevOps, c'est aussi ça cherche aussi à montrer ce problème-là. Ce problème qu'il y a deux populations qui ont des objectifs très très différents et qui frictionnent assez souvent. Donc, on peut résumer que les ops, ce qu'ils veulent, c'est la stabilité. Parce que à chaque fois qu'il y a un changement, c'est une cause d'avoir un problème dans un data center. Dans les devs, leur raison d'être d'un développeur, c'est de faire le changement. Un développeur, il n'a pas de raison d'être si c'est pas pour faire quelque chose de nouveau ou d'introduire même un bug, c'est quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, deux populations qui ont des objectifs différents. Donc, c'est un mot pour les rassembler tous et dans des boucles courtes, les unir. Donc, on a ces deux catégories, donc les développeurs et les opérations, avec des développeurs Java, des intégrateurs, des testeurs. Ici, on a les administrateurs de bases de données, des installeurs sur site, ceux qui font le support aux clients, qui sont de l'autre côté, qu'on peut appeler Ops. Et en général, ça se passe comme ça. Quand vous êtes dans une vraie entreprise qui fait du logiciel, qui fait de la production de systèmes, le passage du développement à l'opération, quand ça tourne dans un data center, ça se passe pas toujours bien. Enfin, ça se passe rarement bien. C'est amplifié par le fait que ces deux populations utilisent des outils très différents. Un développeur Java, il a Eclipse, il va coder en Java, il est dans un monde qui lui est propre. Celui qui est côté Ops, il a des scripts, il va avoir du Shell, il va avoir du PowerShell, il va utiliser des technologies qui sont à lui pour faire sa réalisation. Voilà. Donc le DevOps, on va le faire en créant une boucle entre ces deux populations. Donc la boucle du haut, elle existe naturellement. La boucle du bas, il faut la créer. Et c'est ça le DevOps. Donc, et le DevOps aussi, c'est Lean. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le Lean. Donc, je vais faire une aparté dessus. Ça vient de Toyota, qui a un peu révolutionné la manière de fabriquer les voitures en introduisant un certain nombre de principes qui permettent d'aller vite et surtout d'être très prédictible dans la manière dont on fabrique la voiture et avec son niveau de qualité en bout de chaîne. Donc, ce que vous voyez là, par exemple, ce sont les petites marques qui indiquent qu'à tel moment, la voiture si elle atteint ce trait-là, c'est qu'elle a atteint tel niveau de perfectionnement. Et si ce n'est pas le cas, il faut arrêter la chaîne. Donc, typiquement, dans une ligne de fabrication de Toyota, une usine, j'ai trouvé ce chiffre-là, sur une usine de Toyota, 3000 fois par jour, la ligne s'arrête. Ou il y a un arrêt d'une des lignes. 3000 fois. Donc, c'est énorme. Mais c'est 3000 occasions de s'améliorer. C'est 3000 occasions de se dire, mais en fait, pourquoi ça s'est bloqué, la ligne? Et pourquoi le DevOps a un lien? C'est que pour faire du DevOps dans le monde du logiciel, il faut arriver à avoir ces 3000 incidents par jour. Il faut arriver à trouver un moyen que tout le monde ait une perception que le développement se fait bien rapidement parce qu'on voit des incidents et qui ont une petite portée, mais on sait mesurer leur impact et on sait s'améliorer. On sait faire du 80-20. 20% de l'énergie couvrira 80% des problèmes. C'est l'intérêt, en fait, dans une usine de fabrication comme ça, où il y a énormément de flux, énormément d'incidents, c'est que rapidement, vous savez où sont les vrais problèmes de ceux qui sont des problèmes mineurs. Voilà. Donc, dans le monde du logiciel, ce qui rentre, c'est pas des voitures, c'est des idées, des bugs à corriger, des améliorations. Ça rentre dans la ligne de fabrication qui va aller du développeur qui va devoir l'implémenter à ça tourne dans un système opérationnel. Donc ça introduit des gens qui travaillent et qui vont créer de la valeur ajoutée. Donc c'est pas des voitures, ça peut être des documentations, ça peut être des exécutables, ça peut être tout un certain nombre de choses. Mais la même idée, c'est qu'on a une ligne de fabrication qui doit rapidement en moins d'un jour, souvent on dit une idée un jour avec le DevOps, le lendemain il est en prod, il faut que ça puisse aller très très vite. Donc l'objectif, c'est de supprimer des gâchis. Non, avec le Lean, on essaie de supprimer tout ce qui est les tâches pas finies, la documentation excessive, trop développée, trop pas faire ce qu'il faut, attendre, beaucoup attendre. Avec le DevOps, on va essayer, puisque c'est du Lean, on va essayer d'éliminer tout ça. Toutes ces causes qui font qu'on ne va pas vite, on va les chercher à les éliminer. Et vous verrez comment. Donc, comme dans une ligne de fabrication automobile, dans une ligne de fabrication logicielle et de mise en production en IT, pour appliquer les principes du Lean, ce que vous devez faire, c'est tester, encore, tout le temps, partout. Et là, vous allez trouver vos 3000 problèmes à la journée. C'est-à-dire, si vous automatisez tout ce qui est autour de votre. Qui est nécessaire pour la mise en production, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui fera un mouvement, qu'il y aura un commit, quelqu'un fait une modification dans le code, il y aura des centaines de tests qui vont être une occasion de dire stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça nous permet de reproduire ce qui se passe dans le monde automobile que de dire on va mettre des tests partout. On met systématiquement le métier, quand vous faites du DevOps, c'est presque à 80% faire du test, et du test automatisé. Donc grâce à tous ces tests qui seront partout, qui seront d'autant d'occasion de voir qu'il y a des choses qui dérivent par rapport à la version précédente, vous allez avoir plein de mesures et pouvoir focaliser votre énergie sur les problèmes les plus embêtants ou que aussi ça permet aussi aux développeurs de comprendre qu'il y avait un test très aval qu'il n'avait pas connaissance et il verra qu'il l'aura cassé. C'est un moyen aussi de le former. Donc il y a énormément de bénéfices à rajouter des tests tout au long du cycle pour s'améliorer. Donc, comme le DevOps, c'est tout autour de l'automatisation pour des fins de test, c'est mieux d'utiliser du cloud. C'est même presque indispensable. C'est grâce à ça que, aussi, le DevOps est apparu, c'est parce qu'il y a eu le cloud computing qui est apparu. Donc, quand vous êtes en mode non-cloud, c'est très difficile. Quand vous avez du hardware, c'est lourd, vous ne savez pas rapidement refaire une machine. Tout de suite, il faut remettre des CD, ou alors il y a des moyens de contournement, mais ça prend toujours du temps. Donc, si vous voulez tester beaucoup, beaucoup, beaucoup par jour, il faut vraiment que ça soit rapide. Et là, c'est là où le premier niveau de cloud, qui est l'infrastructure à service, vous permet déjà d'atteindre ce niveau qui vous permettra d'aller très vite. C'est-à-dire que vous allez créer des centaines de fois par jour des environnements de test qui vous permettront de voir si la modification que vous venez de faire dans votre code va pouvoir être déployable sur le site. Parce que vous aurez testé dans votre couverture de test sera très très importante. Donc il y a d'autres types de cloud qui peuvent tout à fait être utilisés, comme le PaaS, qui offre les mêmes bénéfices, ainsi que les autres. Mais c'est vraiment quelque chose d'important pour bien démarrer. Vous pouvez difficilement faire du DevOps si vous n'avez pas un IaaS sous la main, une infrastructure de service, au minimum, pour pouvoir scripter tous vos tests et pouvoir repartir de scratch, c'est-à-dire refabriquer un data center complet avec 20 machines et pouvoir le faire en 10 minutes. C'est essentiel pour avoir tous ces points de mesure dans la journée. C'est ce que nous faisons chez Morpho. Donc ça, c'est une référence par rapport au IaaS et au PaaS. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est entre les... Vous avez les solutions publiques de type IaaS, privées pour faire du cloud privé ou open. Et en haut, c'est plus les PaaS en catégorie. Donc vous avez le Google App Engine, Microsoft Azure en IaaS, Amazon Web Services qui, lui, ils sont leaders mondiaux, ils couvrent la totalité des services. Et OpenStack qui est très aujourd'hui a énormément de vent en poupe en tant que IaaS pour faire du cloud privé, c'est ce que nous utilisons nous. Eucalyptus qui assure son créneau, c'est la compatibilité avec les API et Amazon Web Services, et un challenger, un petit challenger qui est Apache Cloud Stack. Et ensuite il y a d'autres noms là-haut qui sont intéressants également. Alors quelques fait DevOps du point de vue d'Amazon. C'est-à-dire Amazon, ils font du DevOps depuis longtemps. De toute façon, c'est normal, c'est eux qui ont créé le cloud. Ils ont du coup découvert le DevOps avant tout le monde. Pour dire que là, il y a des déploiements, toutes les 11 secondes, il y a des déploiements qui se font sur chaque machine. Ça dure 11 secondes, hop, on change, on casse tout, on redémarre quelque chose, on reteste dans une autre configuration. Donc Voilà, ce sont des chiffres très importants où des dizaines de milliers de fois par jour, il y aura des tests dans plein de combinaisons qui seront faits grâce à l'infrastructure cloud. Donc pourquoi Morpho, on veut faire du DevOps? Parce qu'on avait toujours la situation en haut, avant qu'on fasse du DevOps. C'est que le développeur nous disait c'est génial, ça marche très bien, on peut y aller. Et puis une fois arrivé sur site, c'est pas comme ça. Ça marche pas. Il y a toujours quelque chose qui manque, le détail, le grain de sable, et puis après il cache un autre grain de sable, et puis voilà, vous avez des semaines et des semaines de délai, voire des mois. Donc on voulait absolument pouvoir à tout instant se dire si je veux aller sur site, comme j'ai fait un déploiement complet il y a 10 minutes, je sais que je peux y aller, je prends le binaire, j'y vais. J'ai tout en automatisation. Donc, nous, le DevOps, on attend des environnements de test et d'intégration à la demande, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et des environnements de test complexes, des procédures d'installation qui sont préparées en phase de développement. Donc, ça sort du dev, c'est déjà tout prêt. Et on y est quasiment. Aussi, un effet bénéfique, c'est que les dev people comprennent mieux les besoins des ops, puisqu'ils verront le cycle complet tous les jours, et du coup ils comprendront mieux ce que c'est que d'aller en prod. Donc ça crée une boucle courte entre que des fois le développeur est un peu loin, et c'est très produit, très intéressant pour le développeur. Donc augmenter la réactivité, ça c'est important parce qu'on se sert beaucoup de la... On a des environnements de test à la demande comme on veut, mais aussi on a des environnements de clonables à la demande. Ça, c'est essentiel. Quand vous avez un bug, vous pouvez mettre 10 développeurs en parallèle. C'est-à-dire, vous prenez le banc de test qui contient 10 machines virtuelles où il y a le bug, vous le clonez 10 fois, les MAC adresses sont identiques, les adresses IP sont identiques, et vous mettez les 10 développeurs en parallèle pour trouver le bug. Et ça, sans des technos comme OpenStack ou des technos IaaS, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça permet vraiment, encore une fois, une boucle courte très très rapide. On peut même le faire avec le client. Et capitaliser, parce que dans cette approche-là, on est obligé de formaliser tout. On formalise le déploiement, il faut bien le décrire. Qu'est-ce qui va être déployé? Ça va être décrit dans des fichiers texte, des fichiers YAML, des fichiers XML, enfin on est plutôt YAML maintenant. Mais vous avez l'avantage que... Pour que ça marche, pour que les déploiements automatiques se fassent et que les tests automatiques se fassent, il faut qu'ils aient été décrits quelque part. Donc dans des bases de bugs, dans SVN, vous avez des descriptions complètes de ça. Donc pour redémarrer un nouveau projet, c'est très facile de faire un copy-paste de l'ensemble. Donc, et vous pouvez forquer, partir de là. Ou faire un upgrade. Nous, ça nous intéresse énormément pour faire des upgrades. De dire, j'ai déployé ça chez le client, je vais tester que le bash, le shell shock, là, le dernier trou de sécurité à la mode, est-ce que je peux le déployer tout de suite? Oui, j'ai testé, en effet, dans le native build du data center du client, ça a prouvé qu'on peut y aller. Donc ça nous permet des scénarios d'upgrade, puisqu'on l'aurait testé. Donc chez nous, chez Morpho, donc on a déployé OpenStack. Actuellement, il y a 150 serveurs physiques. On a 1700 VM en moyenne. Vous voyez, par rapport au nombre de users, il y a quand même c'est beaucoup de VM. On en crée aujourd'hui 30 000 par mois, mais créées, détruites. C'est-à-dire, comme on est dans un moment de rotation permanente, on crée une VM, elle fait son travail, et allez, 20 minutes après, elle meurt. Elle a été détruite, parce qu'elle a fait son travail. Et il ne faut pas qu'elle reste. Donc on a des temps de rotation très très courts sur notre infrastructure. Donc c'est une infrastructure dédiée au test qui ne sert qu'à ça. Donc on a encore de la marge puisqu'en fait on a 300 machines en tout et au fur et à mesure on rajoute dynamiquement des PC s'il y a des besoins. Quoi. Donc ça c'était un commentaire sur OpenStack, ça c'est le Google Trend d'OpenStack et ça c'est du premier compétiteur open source. Qui est CloudStack que je vous ai indiqué. Donc en termes de tendance aujourd'hui, OpenStack quand même est un choix actuellement. Quoi. Donc un petit graphique tout simple, c'est pour montrer que dans la journée, le nombre de VM il fluctue. Il fluctue parce que suivant ce que font les utilisateurs, ben, ils vont en détruire 50 d'un coup, ils vont en recréer 100 pour faire autre chose, et donc tout le temps ça bouge. Et ce qui est intéressant, c'est la petite courbe violette là, c'est que pour toujours dans cette notion de créer des boucles, tous les deuxièmes mercredis du mois, on arrête toutes les VM. Donc c'est un peu la sanction, mais ça nous permet d'identifier les VM dormantes. Parce que celles qui ne vont pas redémarrer, au bout d'un mois, on les tue, on les détruit. Donc on est toujours dans cette notion de jamais laisser quelque chose qui se fossilise. Tout est dans un mouvement de rotation quand vous faites du DevOps. Et ça en fait partie. C'est-à-dire cet arrêt obligatoire de toutes les VM, le mercredi, le deuxième mercredi de chaque mois, bah, ça nous permet de rapidement faire de la garbage collection, on va dire, de notre infrastructure. Voilà, donc, notre plateforme DevOps, donc on a une plateforme technique qui supporte le DevOps chez nous, sont des outils assez traditionnels qui instrumentent bien la boucle du dessus, et ces outils-là qui complètent, qui nous permettent de créer la boucle du dessous. Donc avec OpenStack, aujourd'hui on est en Puppet, peut-être qu'on switchera sur Ansible à un moment donné, ça nous intéresse, et on a notre pass, c'est un petit pass à nous pour pas seulement livrer des VM nus qui complètent l'offre. Donc ça, c'est notre plateforme actuelle. Donc c'est un peu la technique. Après, d'un point de vue de projet, alors comment ça se passe quand on travaille? On dit que le DevOps, c'est une nouvelle manière de travailler. Donc le DevOps aussi, c'est à l'agile, hein, c'est l'agile IT. Ça a failli s'appeler agile IT, et puis finalement, le DevOps a plutôt pris. Donc aujourd'hui, on fournit cette plateforme qui permet, d'un côté, ça c'est ce qu'on appelle nos ops à nous, chez Morpho. Là, on a les devs, et tous deux tournent sur notre plateforme et sont capables de s'échanger des environnements, s'échanger des copies de data center complets pour pouvoir les attacher à un bug. C'est-à-dire, j'ai un bug sur ce data center, bah, on met en attachement le bug, enfin, du bug, on met le data center. Voilà. La description du data center. Donc le développeur, s'il y a un bug sur site, il va tout de suite redéployer les 20 machines en question, il va pouvoir tester. Il n'a pas besoin de se connecter sur le site d'opérationnel parce qu'il a une copie qui lui est propre. Voilà, et le DevOps, donc c'est cette boucle-là. Donc ça, c'est pour faire un lien avec l'agile, parce que derrière le DevOps, il y a les mêmes principes que l'agile. Et DevOps aussi, c'est donc de démarrer avec la fin en tête. Donc il faut absolument mettre les ops en situation d'être dès le début d'un projet. Et nous, ce qu'on a fait pour ça, c'est que les ops livrent les operating systems dans OpenStack. Ils livrent les outils de supervision, les sondes qui sont utiles pour pouvoir monitorer ce qu'il y a à monitorer dans un système, et ça ils le reversent pour que les devs puissent l'utiliser. Donc on crée cette boucle du bas en demandant aux ops de collaborer en amont pour que quand ils reçoivent le produit après coup, bah, ils reçoivent le produit qui a tourné sur leur délivrable qu'ils ont livré à l'origine. Ils ont livré le CentOS tuné avec les bons scripts qui les arrangent, ben c'est bien, ils vont le retrouver. Puisque c'est eux qui l'auront livré, les développeurs l'auront repris avec le bon niveau de sécurité. Typiquement, la sécurité, quand vous ne demandez pas à un développeur de le faire, tout tourne en route. Hein. C'est administrateur et route pour tout le monde. Donc là, typiquement, l'OS, il arrive, il a été hardené enfin, avec les bonnes pratiques. Du coup, le développeur... il va faire avec, et on aura peut-être que des fois il essaiera de contourner, mais par défaut il va essayer de faire avec. Et donc il y a plus de chances que quand ça revienne, ça marche du premier coup. Donc dans un projet de type vraiment DevOps, où il y a une démarche DevOps, il faut absolument impliquer les ops d'une manière ou d'une autre dès le début. Et ça, c'est dès qu'on a une architecture préliminaire, même quelque chose de griffonné sur un tableau, tout de suite vous le décrivez et vous le déployez. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une démo, mais c'est vraiment un fichier texte que vous décrivez et vous dites pour ce type d'application, on va mettre un CentOS avec tant de RAM, tant de CPU. On le fait tout de suite et le développeur il repart avec cette description et tout de suite il travaille dans cet environnement-là. Il y a une collaboration dès le début. Ça j'en ai parlé que les ops ils pouvaient packager les éléments IT essentiels. Donc Et nous, en tant qu'opérateur de plateforme DevOps, on les reconnaît bien, en fait, les projets qui sont dans une démarche DevOps de ceux qui sont encore en mode standard. C'est sur leur consommation de ressources de test. En mode DevOps, tout de suite, dès le début du projet, tout le monde a son banc de test qui lui est propre. Donc, vous avez une équipe de 10, le banc de test il fait 10 VM, bah, vous avez déjà 100 VM, d'un coup, en l'espace d'une heure. Et pendant tout le projet, parce que c'est quand même lié au nombre de personnes, vous avez à peu près le même nombre de VM qui tournent. Dans un projet classique, bah, le développeur, en général, il bosse sur son desktop, il fait ses développements en local, bon, il y a un peu d'intégration continue aussi, mais les ressources de test à proprement partie pour démontrer que ça va marcher sur site, ils se font progressivement. Ça se fait vraiment très progressivement. Donc ça n'est possible que si vous avez vraiment un nombre quasi limité de ressources pas chères IT. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas en faire. Parce que là, vous avez vu, il y a une telle consommation de ressources que si elle est chère, c'est un problème. Donc c'est là où vous avez besoin d'un cloud, parce qu'il va vous offrir cette ressource pour très peu cher. C'est pour ça aussi que le cloud permet cette approche, parce que c'est peu cher. Donc, ça c'était un peu notre approche, c'est qu'on demande aux développeurs de produits, nous on a des produits qui marchent sur plein de machines, on vend des systèmes, hein, c'est pas un soft qu'on installe sur une seule machine, souvent on a besoin de 10 machines, 20 machines, on demande aux développeurs de fabriquer des bandes référence qu'ils mettent en intégration continue. Donc ils vont tester que toutes les nuits les pages de sécurité ça régresse pas en prenant les derniers de CentOS ou les derniers d'Ubuntu. Donc en constamment ça compile, enfin, ça se déploie. Et surtout comme c'est copié-collable, quand on veut faire un programme, c'est-à-dire une customisation pour un client, pour un de nos clients, on copie-colle ce déploiement complet. Les équipes qui sont ici vérifient qu'ils sont capables de le refaire tourner eux-mêmes, que c'est bien quelque chose qui est déployable, et après ils le customisent et ils le mettent dans cette même cycle, dans cette même boucle d'intégration continue. Et ce qui est intéressant, c'est la boucle retour. Pardon, excusez-moi. Parce que puisqu'ils utilisent le même formalisme, un développeur peut vérifier que la prochaine version de son produit est toujours compatible avec le déploiement qu'on a fait sur le client Intel, qu'on pourra lui vendre un upgrade. Parce qu'on aura pu vérifier que, parce qu'on a une description de ce qu'on a fait pour le client Intel, on pourra vérifier qu'on peut upgrader telle ou telle partie et lui vendre. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir une offre très, très fluide entre les différentes entités. Donc aujourd'hui, on a fait un POC il y a un an et demi, presque 2 ans maintenant. On commence vraiment à voir les premiers usages type DevOps que cette année, depuis le début de l'année. Et on commence à voir des premières success stories ou des choses qu'on n'aurait jamais vues sans cette approche-là. Typiquement, un bug, nous on utilise beaucoup Oracle RAC, une version d'Oracle hautement disponible. Et grâce à cette flexibilité, les équipes de dev, elles ont mis en place un test où ils tuent un des nœuds du cluster RAC toutes les 10 minutes, vous voyez, au hasard. Ils font du Chaos Monkey, ils voient ce qui se passe sur leur produit. Et ils ont découvert un bug qui montrait que on perdait des données. C'est-à-dire qu'au moment du basculement, c'est-à-dire que le cluster se passe, des données du client allaient être perdues. Donc dramatique, en tout cas pour nous. Et ils ont pu projeter, en fait, en fonction du nombre de fois où c'était fait par jour, parce qu'eux, ils le voyaient plusieurs fois par jour, par rapport à ce qui arrivait sur le terrain, quelle était la projection de l'occurrence du problème. Ils ont pu déterminer que, puisqu'il n'y aurait qu'une fois par mois de ce type de failover chez le client, on aurait le problème qu'une fois tous les 15 mois. Donc, en quelques minutes, eux, ils voyaient le problème, mais ils étaient capables aussi d'en déterminer quel allait être l'impact sur le site. Et donc de pouvoir bien déterminer la criticité. Parce que ça c'est typiquement un bug que vous n'auriez vu que sur site. Parce que l'occurrence est trop faible. Donc tous les tests classiques que vous auriez fait avant de l'envoyer chez le client, de toute façon, on ne l'aurait pas vu. Et ça serait terminé par une plainte du client qui dit votre système, il n'est pas bien, il perd les données, il perd la mémoire. Et alors, je ne dis pas l'échange, parce que, je ne comprends pas, nous, on n'a pas vu ça chez nous. Donc, le fait d'avoir cette capacité de taper si vite et si fort sur nos produits tout le temps, en permanence, ça change complètement la donne. Et surtout, c'est fait en phase de développement, c'est-à-dire là où c'est pas cher à corriger. Voilà. Donc, et le dernier point, c'est un changement de culture au niveau du management. Parce qu'on a cette situation-là, mais cette situation, elle est créée aussi par le management, parce que le management d'une entreprise, en général, elle segmente les deux pour dire, vous, développeurs, vous êtes là pour préparer l'avenir, d'améliorer le business, de faire de la nouveauté, et vous, faites attention, vous êtes garanti que 99,9% du temps, le service y tourne. Voilà, je vous envoie les objectifs pour l'année, qu'est-ce qui se passe en général? Ça peut... entre les deux, dire attends, moi mon objectif c'est de faire tourner. C'est pas de mettre en prod tes applications parce que ça va aller à l'encontre de mes objectifs. Donc il est essentiel pour appliquer une démarche DevOps d'avoir vraiment un bon sponsorship, un bon support du management pour comprendre que ça va créer un problème si on ne met pas des objectifs un peu plus subtils. Voilà, des objectifs de collaboration. Donc, dans mon équipe, on est 18, j'ai cherché à reproduire en fait le monde du DevOps dans mon équipe, au sein de mon équipe. Donc, j'ai des développeurs et j'ai des opérations. Pour que je puisse déployer la démarche DevOps, il fallait que mes équipes ressentent le problème DevOps à tous les jours. Donc, j'aurais dû enlever les noms, mais ici, vous allez avoir ceux qui opèrent. Ils vont faire tourner OpenStack, ils vont répondre aux clients, ils vont faire en sorte que OpenStack fonctionne avec le bon niveau de qualité de service. Là-haut, c'est tous ceux qui opèrent SVN, Jira, qui répondent, qui mettent les droits, qui répondent aux questions. Et de ce côté-là, vous avez tous ceux qui amènent des changements, c'est-à-dire qui font des évolutions dans la manière de travailler et dans ce qu'on déploie sur OpenStack. Donc, et il se passe exactement ce qui se passe d'habitude, c'est que parfois, moi je les vois, ils en appellent à moi, quelque part, pour résoudre certains désalignements, parce que ça se reproduit systématiquement. Par contre, je le voulais avoir à petite échelle, je voulais l'avoir au sein de mon entité, pour qu'ils puissent aussi en parler à l'extérieur, qu'eux-mêmes, ils ont beau être que 18, ils ont aussi cette difficulté d'interaction parce que c'est dev et ops. Bon, je vais vous faire juste, puisque j'ai un tout petit peu de temps, je vais vous montrer un petit peu notre... déjà OpenStack, je pense que vous connaissez sûrement bien. Enfin, vous avez sûrement dû avoir des présentations, mais je vous fais ça très rapidement. Donc, je me log à l'infrastructure. Ici, j'ai la liste des bancs de test auxquels j'ai droit de visibilité. J'ai pas tous, il y en a 400. Aujourd'hui, on en a 400 de bancs virtuels. Là, il y a mon banc personnel, avec mon matricule. Enfin, toute personne a un banc qui lui est propre, où il fait ce qu'il veut dedans. Donc là, vous regardez, en ce moment, j'ai des VM. Là, je suis en train de tester Zabbix sur Ubuntu, donc je me suis fait une VM pour ça. Voilà, je fais ce que je veux. Donc je peux, à la demande, toujours dans un temps très court, si je veux, je ne sais pas, aller à un autre Ubuntu. Ubuntu. Ouais, je veux une VM de ce type-là. Je rajoute à mon réseau, à ma DMZ. Voilà. Donc là, OpenStack est en train de trouver une blade, un des 150 serveurs qui est prêt à accueillir ma VM, et il va charger l'image dessus ça y est, elle est prête. Donc là, je peux déjà m'y connecter. Elle est en train de booter. normalement. Oui, voilà. On vous a vu le temps hein, qu'il faut. C'est le temps de le dire. Donc c'est pareil pour les volumes de données. On a beaucoup de stockage SSD fait pour ça. C'est aussi rapide. Quoi. Vous demandez, vous voulez 300 gigas, vous avez 300 gigas en 10 secondes. Et après, vous le connectez à la VM que vous voulez. Donc ça, c'est le niveau dashboard, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, pour faire du DevOps. C'est d'automatiser, comme je vous ai dit, d'automatiser les tests. C'est automatiser tout le déploiement. C'est-à-dire qu'on va piloter avec un script Python OpenStack pour lui dire, crée un réseau, mets un routeur à tel endroit, mets tel IP à tel, sur tel port du switch virtuel, connecte tel VM dessus avec tel OS, et tout ça en automatique, piloté depuis notre ferme Hudson. C'est comme Jenkins. Bon, d'un ordre d'idée, ça donne ça. Donc là, vous avez un déploiement qui est en cours. Donc ça, c'est un script Python qu'on a écrit nous-mêmes, hein, qui prend une description de ce qu'il y a à faire. Donc on peut le regarder. C'est très simple à comprendre. Ça, c'est marqué faire une machine qui s'appelle VPN, qui est de tel type d'instance, il faut utiliser l'image de référence qui s'appelle comme ça, l'adresse IP. Je peux aussi forcer les MAC adresses pour avoir une copie identique d'un. Vraiment au bit près, là, pour le coup. Je peux forcer aussi les MAC adresses. Et je vais décrire toutes les machines que je veux pour faire le déploiement. Et donc il y a un script Python qui lit ce fichier, qui envoie les appels web services qui vont bien pour créer les réseaux, créer ce qu'il y a à faire. Quoi. Donc on a, comme on est en Puppet, on a aussi une recette, un site.pp qui va dire sur la machine qui s'appellera MCP 5050-100, il faut reconfigurer le repo YUM comme ça, il faut déployer JBoss. Voilà, et donc c'est vous avez un fichier qui vous dit quelle machine il faut créer et un autre fichier qui dit quel soft il faut installer dessus en automatique. Et grâce à ces deux fonctions-là, vous avez la graine qui vous permet d'enchaîner après les tests automatiques et de qu'à chaque commit, le WAR il est automatiquement uploadé sur un environnement qui a été refait de zéro juste pour ça. Voilà, on est dans la création complète. Et on a des bancs de tests qui vont de une machine, vers une machine de build typiquement, à 50 machines. Parce que c'est très complexe là, c'est un déploiement très complexe, multi-produit, avec plein d'interconnexions. Donc là, c'est un peu plus long à déployer, ça peut prendre jusqu'à 2 heures, mais ça reste quand même, on en fait plusieurs par jour quand même, parce qu'on peut en faire en parallèle. Ce que font les équipes, c'est qu'en général, comme vous avez vu dans mon interface, là, par exemple, le projet qui s'appelle PNR, il a 1, 2, 3, et en fait, il en a plein. Il a plein de data centers privés, et en parallèle, il va déployer des choses soit identiques, soit différentes, c'est-à-dire d'autres combinaisons. Voilà. Donc, si on revient juste... Donc voilà, là vous avez un déroulement d'une fabrication d'un data center. C'est le monde du web service, du loosely coupled, où vous pouvez depuis une machine distante piloter cette infrastructure en web service pour lui faire ce que vous voulez. Et là, pour nous, c'est pour faire une démarche DevOps dans l'entreprise. Voilà, tout ça. Donc ça se passe des dizaines ou des centaines de fois par jour. Et on mesure maintenant les performances de nos déploiements sous forme d'une SLA. Parce qu'à force, quand vous avez plein d'environnements, c'est dur de synthétiser l'information. Donc je vais vous montrer. Ce sera la dernière information que je vous donnerai. On se met à monitorer la performance de déploiement avec Nagios, avec une supervision. C'est-à-dire qu'on on va vérifier que le use case déploiement en mode haute disponibilité de tel produit avec tel autre, est-ce qu'il marche tout le temps? Est-ce que de temps en temps il marche pas bien? Et on en déduit s'il est à 100%, s'il est à 80%, à 10%. Et comme ça, ça nous permet de dire il y a une dégradation ou il y a une amélioration. Le 0-1, c'est gênant. Ce qui est important dans la démarche Lean, comme je vous ai dit au début, c'est d'avoir des niveaux de analogiques, quoi, de 0 à 100%. Donc ça, ça nous permet de voir si on est dans une pente de dégradation, d'amélioration ou de stabilité. Parce qu'on monite les succès qui se font tous les jours en masse pour comprendre où on en est. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense que j'ai à peu près fini. Donc, le DevOps, c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, c'est quelque chose que vous devez faire. C'est une vraie volonté. C'est une volonté de se dire, je veux aller vite. Et pour aller vite, il va falloir que je teste dans toutes les combinaisons, ou dans une énorme quantité de combinaisons. Et pour cela, je vais devoir aussi m'investir dans une infrastructure cloud, soit publique, soit privée, suivant vos désirs et vos moyens et vos contraintes. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une pratique. Donc, comme je l'ai dit, du cloud. Et aussi vraiment un grand support du management. Oui.
Excusez-moi.
Oui.
Allez-y. Je ne pas avoir ce style de présentation dans le matériel. Je suis automaticien et je suis universitaire sur la formation pour développer. Et j'avoue qu'il y a quelque chose qui me chagrine dans la façon dont vous avez montré, c'est que vous basez en gros je vais un peu exagérer, la qualité de votre déploiement sur les tests. Pourquoi pas avant de se baser sur les tests, sur le développement du cahier des charges, parce que par exemple, vous parliez du manager qui ne savait pas gérer finalement son équipe entre les développeurs et les opérateurs. Il y a aussi, là, vous parlez d'un nombre incalculable, à tel point qu'il faut arriver à un cloud pas cher pour tester toutes les solutions une par une, alors qu'il y a quand même des choses, des outils qui permettent de rendre ces tests génériques, on va dire, quelque part. Donc pourquoi il n'y a pas une démarche en amont plutôt que la démarche au final de dire on n'a pas le choix, on a fait le développement comme ça, maintenant il faut qu'on teste pour y arriver. Je caricature un peu.
Oui, je comprends. Non, je comprends. C'est... On a commencé avec une démarche comme ça. Et ça, on n'a pas réussi à le faire parce qu'en fait, notre combinatoire était trop importante. C'est-à-dire que quand vous démarchez sur Windows avec telle version, sur ce Linux-là, sur du Solaris, vous avez une combinatoire qui est gigantesque. En fait, un coup c'est du Oracle Java, un coup c'est du OpenJDK. Vous mettez du MySQL, ah non, je vais mettre du Postgre, puis je vais mettre de l'Oracle. Alors, vous multipliez la matrice. Et ça vous fait un nombre une couverture qui est gigantesque. Donc, vous vous apercevez, soit vous dites, je taille, c'est-à-dire je mets au niveau spec, et je dis, non, je le fais pas, je taille dans les fonctions, ou je dis, si, c'est quand même maintenant mon business, aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude d'avoir leur solution, tout le monde a son smartphone avec ses applis, on est dans le monde de, pour moi, je veux la solution qui m'est propre, donc vous allez me mettre tel OS, vous allez me mettre, mais je veux votre produit dessus, il y aura ma supervision, il y aura mes choses à moi, mais vous devrez quand même tourner sur cet environnement-là. Et donc, c'est ça la démarche. Soit vous coupez la matrice, ça revient à ça, soit vous dites, je peux pas, je dois le faire, et vous tombez dans ce genre de pratique qui est que c'est le test qui vous garde une ligne de conduite. Vous êtes obligé de passer un seuil. Parce qu'il faut quand même investir, hein. Le management, une infrastructure cloud, c'est quand même un engagement quand même de passer dans le DevOps. Mais c'est parce que vous avez fait ce choix-là. Vous avez fait le choix d'une matrice très, très pleine en fait, en termes de possibilités. On a des combinatoires très très élevés aujourd'hui. C'est, quand vous avez la chance de pouvoir avoir une pile verticale où vous contrôlez tout, enfin, je veux dire, vous contrôlez beaucoup de choses, l'OS que vous voulez, ça sera toujours du Windows, avec... ouais, ou du Linux, voilà, allez, du Linux. Nous aussi, on est très Linux, donc c'est un mauvais exemple. On est très très Linux. Voilà, mais ça va être, je suis que CentOS ou je suis aussi Oracle Linux et Red Hat. Ça se brède pas exactement pareil. Enfin, il y a des petites différences. Et soit vous dites, maintenant, je serai que CentOS, ou alors je me mets en sorte de pouvoir tester. Comme c'est très similaire entre Red Hat, CentOS et Oracle Linux, mais c'est suffisamment différent pour qu'on ait des problèmes. Donc bah, on a décidé de ne pas descoper, on ne peut pas le descoper, on a décidé, voilà, c'était dans notre démarche produit que d'avoir ça. Donc on instrumente notre processus industriel. En fait, on crée une ligne de fabrication qui sera efficace pour couvrir tous ces cas-là. Et, je comprends bien, on a eu ce genre de discours avant où il fallait essayer de raisonner avant d'engager beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là on est plus dans les démarches agiles, c'est se dire, il faut pouvoir aller vite, mais que les impacts soient très faibles, pas cher. Si jamais on se trompe, c'est pas grave, parce que l'impact, vous l'avez récupéré très rapidement. Ça permet l'innovation. Il faut voir comment cette infrastructure permet l'innovation chez nous. Parce que le droit à l'erreur, il est partout. Si vous cassez quelque chose et vous appuyez sur un bouton, vous l'avez le lendemain, enfin, 5 minutes après, vous avez de nouveau ce que vous avez cassé de zéro. Ça, pour l'impact sur l'innovation des gens, ça leur libère un certain nombre de verrous où ils n'osent pas, ou puis je ne vais pas aller toucher à la machine qui sert de référence, hein, pour les tests. Ça a des bénéfices aussi au niveau management, en fait. C'est pas que au niveau de la définition du produit. Mais je comprends bien. Mais c'est un vrai changement. Je veux dire, on a eu des gens qui ne comprenaient pas l'intérêt du tout. Et d'autres qui sont allés directement, et on les a presque pas vus, il a fallu leur courir après pour comprendre ce qu'ils faisaient exactement. Mais c'était très... on est une grande entreprise, donc on n'a pas encore une homogénéité dans l'usage. Mais voilà. Mais depuis septembre, là, on a vraiment un grand switch, et ça monte vraiment fort là, chez nos développeurs. Et... voilà. Oui. On l'a mesuré, on sait qu'aujourd'hui déjà il est positif, rien qu'à cause du bug dont je vous ai cité là. C'est un bug typiquement où le PDG il est convoqué toutes les semaines parce que on vend des systèmes à l'échelle des États, vous imaginez. Donc tout de suite ça prend des proportions très importantes quand nos systèmes ne fonctionnent pas. Donc typiquement le bug que je vous ai montré qui perdait des données du client sur site, déjà lui on a estimé que ça rentabilisait largement l'investissement qu'on avait déjà dépensé. C'est pas très cher hein, aujourd'hui hein, ce qu'on dépense autour de ça, hein, c'est on est 2 personnes et demie dessus, donc c'est pas un énorme investissement. Le hardware on l'avait déjà, c'est vrai, ça c'est aussi un avantage. Donc c'était un hardware qui a 4 ans quand même, on l'a acheté il y a 4 ans, donc c'est un vieux hardware, sauf qu'il est là, il a l'avantage, on lui a rajouté un peu de RAM, on lui a mis des SSD dedans. C'est du SATA 2, mais c'est pas grave, hein. Enfin, ça marche très bien avec du SSD. Et on redonne une nouvelle vie à notre infrastructure. Donc c'est assez peu cher, en fait. Donc le ROI, aujourd'hui, on l'estime déjà positif. Mais vu que nos cycles sont longs, c'est un peu la difficulté. Nous, on a des. Voilà, ça peut mettre 2 ans, 3 ans avant qu'on envoie quelque chose chez les clients. En effet, on va les avoir maintenant. En fait, là, on les a eu cet été, là, le premier avec le bug, là, qui nous a vraiment montré que ça valait le coup. Mais j'espère que l'année prochaine, on en aura plein d'autres. On aura plein d'autres success stories de ce type-là. Donc, oui, 5 minutes. Ce qu'on envisage aussi, c'est de créer cette même boucle avec nos clients. C'est-à-dire, on voudrait avoir un OpenStack mobile et une DevOps plateforme mobile. C'est-à-dire, on la met sur un portable et en fait, on transfère les bancs qu'on s'apprête à déployer chez le client sur cet OpenStack mobile, et après on va faire le training des clients avec. C'est-à-dire que le client, on lui, c'est une machine un peu boostée, hein, mais il va se connecter, il aura 10 copies du système qu'on va lui déployer, et il pourra jouer avec, il aura cette même facilité de toucher, et si jamais il casse, c'est pas grave, on lui refait son environnement en 5 minutes. On voudrait aussi créer cette boucle potentiellement avec nos clients, ça serait idéal. Le training est une manière de faire des acceptances de ce type-là, de montrer au client en avance de phase, vous voyez, ça va ressembler à ça, votre produit. Est-ce que vos DBA, ils customisent comme ça d'habitude Oracle? Est-ce que les Linux, ils sont bien configurés comme vous voulez? Tout ça, on peut lui amener chez lui, et c'est un vecteur de communication très important. Parce que c'est ce que permet la démarche DevOps d'automatisation et l'usage d'un cloud. Pour ça.
Donc, ici, ouais. Le tiers base de données fait aussi partie de votre agilité ?
Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire mais il fait partie de notre PAS, on appelle MCP IT, Morpho Core Platform IT, où on a des déploiements Puppet de Oracle. Donc, c'est pas OpenStack qui livre la fonction en base de données. Par contre, on se sert de OpenStack pour faire tourner et déployer une base de données ou du Postgre, on utilise Postgre également, dessus. Donc, ça, c'est des choses qu'on rajoute par-dessus. C'est-à-dire que ça fait partie des délivrables de mon entité et ce que amènent les Ops. Ils amènent ce genre de packaging. Comme ça, on peut déployer N fois dans la journée des clusters de bases de données où les produits vont taper dedans. Oui, c'est... Ah non, on a déployé des bases de plusieurs téraoctets, puisque derrière, on a 20 téraoctets de SSD à la demande, et ça nous est arrivé de faire des tests en charge, des tests d'endurance, où on a alloué 15 téra, et puis on a chargé de la donnée. Bien sûr, là, ça prend quelques heures, voire quelques jours. On n'est plus dans les mêmes use cases, quoi. Ça, vous le faites un cycle plus long, mais ça reste quand même des cycles courts. Quand vous n'avez pas besoin de courir après la machine, c'est... Oui. Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, je vais vous raconter l'histoire, c'est qu'en ce moment, on est en train de prévoir le déploiement de la prochaine version d'OpenStack. Eh bien, on le fait dans OpenStack. C'est-à-dire qu'on fait du OpenStack over OpenStack. Donc, c'est intéressant parce que là, les scripts qui pilotent tout ça, ils dépendent de l'API d'OpenStack d'aujourd'hui. Mais imaginez qu'elle change. Ça peut casser la compatibilité. Et moi, je veux pouvoir rejouer dans 5 ans ce que je joue maintenant.
Les API sont...
On n'est jamais à l'abri d'un... entre Keystone, où ils ont enlevé la version 1, ça arrive. Donc, de redéployer un OpenStack, donc la plateforme complète, dans l'infrastructure, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on le fait à des fins de prévoir l'upgrade, mais déjà, on voit déjà que ça nous permettra de garantir une stabilité dans le temps de la plateforme. Que la plateforme soit OpenStack over OpenStack. Deux niveaux. Aujourd'hui, on a un niveau d'inception, parce que ça revient au film Inception, hein, de 4. C'est-à-dire que pour pouvoir vérifier que notre prochain Havana, on pourra faire la même chose, on est obligé de démarrer des VM dans des VM dans des VM pour s'assurer qu'on saura faire la même chose quand on aura déployé la nouvelle version. Quoi. On est dans 3 niveaux de VM. On est en Grizzly et on est en train de prévoir le déploiement Havana pour décembre. Pardon ? Non, on fait step by step. On essaie de... C'est notre manière de voir, en tout cas. On essaie d'y aller progressivement.
Parce que... Et comment vous visualisez le concept de DevOps pour les toutes petites structures, genre les TPE, parce que là, vous avez vraiment une vision entreprise internationale avec 8000 employés.
Bah après, vous avez du Vagrant, vous avez des solutions beaucoup plus petites, monomachine. Vous pouvez avoir votre OpenStack, c'est DevStack, là, le mode monomachine. Vous pouvez avoir une démarche DevOps sur une seule machine, en fait. La date d'échéance, c'est dès que vous voulez plusieurs machines. Là, c'est, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Mais avoir des solutions DevOps pour faire du DevOps, monomachine, vous avez des solutions.
Prenez...
Voilà, du Docker, de Vagrant, vous faites des scripts shell. Vous pouvez avoir cette démarche, c'est un état d'esprit avant d'être de l'outillage. Hein. Ça permet juste d'atteindre l'échelle. C'est gros. Mais voilà.
Quels sont les critères que vous mettez en place pour créer des cahiers des charges pour les podcasts? Parce que c'est possible d'oublier comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a tellement de solutions que comment vous assurez que la solution critique, vous n'allez pas l'oublier?
Alors là, on passe du côté des projets. Parce que moi, j'offre le moyen et la méthode. Après, il y a toujours un métier spec chez nous. Il y a toujours quelqu'un. Et puis, il y a des architectes qui doivent bien se poser la question de ce qu'ils ont à déployer. Moi, je ne suis pas capable d'identifier quelqu'un qui est en train de se tromper. S'il a déployé un Windows alors qu'il devait déployer un Linux, Moi, je le vois pas. C'est, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est de l'infrastructure. J'ai 1700 VM. Donc, dans ces phases amont, il faut, en fait, c'est le risque, en fait, qu'elle soit oubliée. C'est tellement facile qu'on pourrait se dire, de toute façon, on ne pense plus à rien. Voilà. Alors que c'est pas vrai. Il faut quand même continuer à revoir. C'est des fichiers. Vous avez vu, c'est des fichiers textes. Il faut les revoir ensemble, faire de la revue de code. Il faut. Est-ce que c'est bien ce qu'on veut faire? Est-ce que ça a du sens? Ça n'empêche pas ces incontournables-là. Ouais. C'est ça la question. Mais moi, en tant qu'opérateur de l'infrastructure et promoteur de la méthode, je ne peux pas avoir un avis sur la pertinence de ce que les gens font avec. Je leur sors des métriques, je leur sors des informations que j'ai par le dessous, que je vois, mais je ne sais pas si ça correspond aux besoins de l'entreprise.